À bout de souffle, c'est sur Radio Béton, émission sur la création contemporaine et la pensée contemporaine. L'invité du jour, Michel Lussault, géographe. Michel Lussault, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accorder quelques temps pour parler de votre livre, L'homme spatial. Alors vous êtes géographe, vous êtes professeur à l'université François Rabelais de Tours, président de celle-ci. Et donc vous avez publié juste avant l'été L'homme spatial, la construction sociale de l'espace humain aux éditions du Seuil. Vous aviez notamment auparavant co-dirigé avec Jacques Lévy la rédaction du dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés édité chez Belin. Alors nous essaierons d'être précis et clairs dans nos interrogations ou propositions de développement parce que après tout, vous avez fait l'effort de cette précision et de cette clarté dans ce livre. Et alors parfois, au risque de vous paraphraser, nous essaierons de nous tenir à cette exigence de précision. Mais surtout, et aussi parce que les mots que nous employons pour parler de l'espace nous trompent. Ils sont d'un autre temps et que nous aurons à faire l'effort d'un nouveau lexique comme celui d'un nouveau regard. Cet essai nous a marqué avant tout parce qu'il tente à faire de la géographie une science qui a à dire à la littérature, à la peinture, à la philosophie ou encore à la sociologie. Quelques noms, on peut citer ainsi Hannah Arendt, Michel Foucault, Paul Ricoeur, Paul Virilio, Georges Perec, Evin Goffman, Norbert Elias ou encore Maurice Godelier. Une géographie ne voulant plus aller là où on l'obligea longtemps à aller, une géographie débarrassée d'une idée de nature autonome extérieure à la société, non pas que cette nature ait disparu, bien au contraire, mais réinventée sans cesse afin qu'elle soit conforme aux logiques de la société. Petit passage tiré du dictionnaire de la géographie. Avec ce livre, vous offrez à la fois un mode d'emploi de l'espace humain et une analyse neuve de notre espace. Espace caractérisé par l'ère de l'urbanité. Nous serions passés de la ville à l'urbain, et ce changement corrobolant avec la mutation sociale déjà analysée par d'autres disciplines, la philosophie, la psychanalyse, la littérature, la sociologie, ce passage de la ville à l'urbain, vous le comparez en termes d'ampleur au passage de la cité à la ville. Avec ceci de différent, qu'il est un moment de la défiguration, ou plutôt de l'absence de toute figure possible, que l'urbain est infigurable. Pour échapper au vertige d'une telle absence, vous nous rappelez que l'espèce humaine invente son espace et ce faisant, il s'invente. Je vous cite, « L'espace est à la fois un support actif de l'activité, un instrument de celle-ci et une réalité chargée de valeur. Toute spatialité, c'est-à-dire agencement des réalités, suppose une pré-compréhension du monde de l'action spatiale, une mise en intrigue et enfin une interaction avec la sphère communicationnelle. Si l'homme donc est un animal doté du langage, il faut donc en prendre la mesure. Ces mots ne sont pas vains. Ils ne retombent pas dans un vide infini, ils se projettent hors de lui dans la matière. Et ce faisant, il l'institue dans un espace. Le langage serait alors intimement lié à la condition du placement, et peut-être du déplacement, et peut-être même du voir. Avec ce livre, nous pouvons désormais avancer que l'espace se constitue dans et par le langage, que si l'homme est un animal linguistique, il est de fait aussi un animal spatial. Ceci dit, et parce que vivre, c'est passer d'un espace à un autre en essayant le plus possible de ne pas se cogner, nuancé Georges Perec, vous déclinez les compétences spatiales élémentaires de cet animal spatial. La maîtrise des métriques, la compétence de placement et d'arrangement, la maîtrise des échelles et la découpe de l'espace en unités élémentaires. Ainsi, au terme de ce livre, vous parvenez non pas à redonner une figure de ce qui n'en est plus, mais à en reconstituer le tissu, le réseau, la maille, le nœud, à en faire ressortir la substance. Et cette substance est la présence de l'homme s'organisant en société, visible par l'écran de ce qu'il produit. Alors une première question, et puis peut-être que vous pourrez réagir à cette introduction. Avec cet essai, vous tentez de nous expliquer comment l'espace s'informe de la mutation sociale que nous vivons, et comment en retour, il a à nous renseigner, si on veut bien y prêter attention, un peu comme Georges Perec et François Maspero, qui ont tenté chacun leur manière de regarder l'espace. Précisons peut-être avant que d'autres penseurs dans d'autres disciplines ont à leur tour révélé et tenté d'approcher la mutation sociale contemporaine. Je pense notamment aux écrits de Dany Robert Dufour, qui évolue dans les sciences de l'éducation, aux travaux du psychanalyste Jean-Pierre Lebrun, qui lui parle d'une nouvelle économie psychique, mais aussi aux réflexions du philosophe Bernard Stiegler, qui tente de penser la technique et le temps à l'heure de l'hypercapitalisme. On pourrait également citer, comme vous le faites, Paul Virilio ou encore Michel Serres. J'aimerais donc que vous nous disiez quels sont les symptômes de ce tournant que j'appelle anthropologique, qui font signe en quelque sorte au géographe que vous êtes et à la géographie.
Tout d'abord, peut-être un mot pour reprendre au bon le début de votre propos. Précision dans les termes, avez-vous dit? Oui, parce que je crois qu'il n'y a pas de projet de sciences sociales qui ne soit pas aussi un projet d'écriture et donc un projet de lexique, de sémantique et de syntaxe. Et que très souvent, on a tendance à dépouiller un peu les sciences sociales de cette volonté, de ce rapport à l'écriture, et ce faisant, on fait perdre aux sciences sociales une partie de leur portée. Les sciences sociales permettent de penser, mais d'abord, elles s'écrivent. Et je crois qu'il faut peut-être revenir là à ce qui a fait le cœur du travail de certains grands anciens dont on n'a pas fini de méditer les leçons. On peut citer Michel Foucault, qui personnellement m'a toujours beaucoup marqué, quel que soit ce qu'on puisse dire de son travail et de ses conclusions. Dans toute l'œuvre de Foucault, d'ailleurs on dit l'œuvre de Foucault, il y avait un projet d'écriture qui était au cœur même de ce qu'il voulait faire. Et très... modestement, je me suis dit qu'on ne pouvait pas être géographe sans en passer par là. D'où l'idée du dictionnaire. Et puis une fois le dictionnaire fait et stabilisé, l'idée de continuer pour donner cette fois-ci un peu de chair narrative au dictionnaire, c'est-à-dire pour partir des objets que l'on avait placés dans le dictionnaire pour voir si, mis bout à bout, ils arrivaient à nous permettre de tenir un discours cohérent sur cette réalité que vous avez bien décrite, qui est la réalité de l'espace humain. Donc ça, c'est un premier point, et je suis assez content que vous l'ayez repéré, parce que curieusement, c'est quelque chose qui est souvent escamoté dans le débat sur les sciences sociales aujourd'hui, comme si les sciences sociales n'étaient que une manière de livrer des idées un peu neutres, en quelque sorte dépouillées justement de ce qui va avec la relation au langage. Alors le tournant anthropologique, vous en avez déjà donné quelques illustrations. Moi, depuis longtemps, depuis que j'ai commencé ce travail, j'ai été hostile à l'idée que l'espace humain n'était qu'une étendue matérielle. C'est-à-dire pendant très longtemps, la géographie a été une discipline qui a considéré que finalement l'espace des sociétés était quelque chose de relativement trivial. Elle l'écoutait elle-même, donc elle se trivialisait elle-même en disant ça, c'est-à-dire bon, bah, l'espace c'est la surface sur laquelle se projettent les rapports sociaux. Une définition classique dans ce qu'on appelait l'école de la géographie sociale des années 70, assez marquée par une certaine lecture de Marx, et qui disait donc l'espace c'est la surface de projection des rapports sociaux. Alors du coup, quand j'étais jeune étudiant, j'étais à la fois assez fasciné par cette définition qui était assez dans l'air du temps, et puis en même temps un peu frustré, parce que si l'espace n'est qu'une surface de projection, en soi il n'est pas très intéressant. Il vaut mieux s'intéresser aux rapports sociaux et considérer que finalement l'espace est quelque chose d'assez neutre. Et puis petit à petit, je me suis dit, mais en fait... cette manière de faire ne permet pas de comprendre un certain nombre de phénomènes. Ne permet pas, par exemple, de comprendre cette relation anthropologique très forte qui unit les individus à leur espace de vie. Et qui est une relation où passe de l'affectivité, de l'imaginaire, du désir, de la souffrance, de la peur, de la joie, du contentement, etc. etc. Et on voit bien dans ce type de relation qu'on arrive à cerner tout simplement quand on fait de l'enquête auprès des individus dans toute société, dans toute culture, on voit bien que cette relation, elle est gorgée de sens et en même temps, elle n'est pas facilement réductible. Et donc, je me suis dit qu'on ne pouvait pas aborder l'espace, point 1, sans aborder justement cette relation affective, idéale, intellectuelle, sensible, des individus à leur espace de vie. et que ça nous obligeait, on y reviendra sans doute, de passer par l'étude de ce qui pour moi est le meilleur médium pour comprendre ces relations, c'est-à-dire le langage. Et petit à petit, je me suis dit aussi, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas une manière de considérer l'espace qui serait plus satisfaisante que simplement dire c'est une étendue et qui soit complémentaire de l'idée que c'est aussi quelque chose qui renvoie à un rapport affectif? Est-ce que l'espace ne pourrait pas être considéré non pas comme un contenant de la relation sociale ou un support de la relation sociale, mais beaucoup plus un contenu de la relation sociale? C'est-à-dire passer d'une définition marxienne, l'espace c'est le support de projection des relations sociales, à une conception plus anthropologique et compréhensive, peut-être aussi plus phénoménologique, plus ancrée sur un certain nombre de savoirs de la philosophie du langage, qui serait de considérer l'espace comme un contenu de la relation. C'est-à-dire de poser le postulat qu'il n'y a pas de relation entre les individus sans espace. Et à partir de ce moment-là, ça oblige à trouver à l'espace une définition, qui est une définition que je propose dans ce livre, une définition qui, de manière simple, vise à considérer que l'espace est d'abord la réponse à une série de questions qui sont posées par un problème qui est celui de la distance. Et donc, le projet de ce livre, c'est d'essayer de montrer, en fait, que dans toute relation interindividuelle, les questions d'espace et de spatialité sont fondamentales et qu'elles sont fondamentalement anthropologiques, c'est-à-dire qu'elles définissent l'humain, d'où le titre « L'homme spatial », qu'elles définissent la société en tant que la société peut être considérée comme une interaction permanente d'humains et de non-humains d'ailleurs, et qu'en même temps, cette conception de l'espace en fait aussi une réalité essentiellement politique, puisque à partir de la réflexion sur la question de la distance, on peut être amené à proposer de repenser la relation politique entre les individus dans les sociétés contemporaines. Donc voilà de façon un peu rapide peut-être le projet du livre et pourquoi effectivement ce tournant anthropologique est important. Il s'agit de passer d'une époque où le géographe regardait l'espace vu de haut, hein, comme un satellite peut le regarder, à une étude où le géographe regarde l'espace à l'intérieur de la relation sociale et politique que les individus entretiennent chacun avec les autres.
Vous partez de situations très concrètes et à la fois très diverses, qui va à la fois par exemple du tsunami, du stress, en passant par les controverses liées à un projet d'implantation d'un incinérateur, mais également à Rosa Parks, l'histoire d'une dame qui tient à conserver sa place dans un bus à l'époque de l'apartheid, un petit conflit à l'intérieur d'un TGV. Donc autant de situations extrêmement diverses que vous décidez de tout analyser et les considérer comme des phénomènes sociaux en fait. Parce que comme si c'était cette nouvelle définition qui permet de considérer le tsunami ou l'affaire du Stras comme des phénomènes sociaux de la même ampleur, enfin en tout cas créant les mêmes phénomènes que quelqu'un qui souhaite garder sa place dans un bus.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'idée que j'essaye de développer, c'est que le type d'analyse que je propose est valable quelle que soit la taille et l'ampleur du phénomène considéré. C'est-à-dire qu'on peut analyser de la même manière, avec les mêmes instruments et la même volonté de compréhension. Un phénomène de grande ampleur comme ce tsunami en Asie du Sud en décembre 2004 qui a provoqué un ébranlement des sociétés locales, en même temps qu'il a eu un impact considérable à l'échelle mondiale, et qu'il a même peut-être été un des premiers exemples de ce nouveau style de catastrophe qui est la grande catastrophe de type entre guillemets naturel. Donc on peut analyser cela avec les mêmes outils, la même perspective compréhensive qu'analyser la façon dont Rosa Parks, donc cette noire américaine, en 1955, dans un bus dans l'Alabama, Montgomery, refuse de céder sa place à un blanc dans la partie du bus où les noirs pouvaient s'asseoir, puisqu'ils ne pouvaient pas s'asseoir partout, mais où ils devaient céder leur place lorsque les blancs le demandaient. Et l'idée du livre, c'est de dire, dans les deux cas, on peut analyser en fait des situations. Donc c'est un livre qui est marqué par une pensée ou un paradigme situationnel, je n'ose dire situationniste, mais encore qu'on pourrait réfléchir et aussi réfléchir aux apports qu'a eu pour moi un auteur qui n'est pas cité ici, qui est Guy Debord, hein, qui est loin d'être sans importance dans mon travail, curieusement. Donc on peut considérer ces choses comme des situations sociales, c'est-à-dire des situations, ce sont des moments de convergence d'acteurs sociaux. Moments de convergence dont on peut évidemment sonder les conditions de possibilité. Ce qui arrive à Rosa Parks n'est compréhensible que si on se replonge dans une archéologie du racisme aux États-Unis, par exemple. Le tsunami de décembre 2004, même si l'origine géophysique du séisme n'était pas maîtrisable par l'homme, ce tsunami a eu l'impact qu'il a eu et l'écho qu'il a eu aussi parce qu'il a touché des sociétés qui s'étaient organisées d'une certaine façon. Donc il y a aussi des conditions de possibilité. Ce n'est pas simplement la fatalité. C'est véritablement le résultat d'une évolution sociale et politique. Donc on peut utiliser la notion de situation pour qualifier ça. Et dans chacune de ces situations, on peut montrer qu'en fait, il est possible de les penser. Alors je ne dis pas que c'est la seule manière de les penser, hein, mais il est possible de les penser en essayant d'être attentif, en fait, à quelques types de manifestations, à quelques types d'usages de compétences par les acteurs sociaux. C'est-à-dire toutes les compétences qui renvoient aux questions de gestion de la distance, là on y reviendra peut-être, c'est-à-dire la manière dont les individus parviennent à placer autour d'eux un ordre de coexistence de réalités distantes, et partir du principe que cette gestion de la distance, c'est une activité anthropologiquement fondamentale, c'est-à-dire dont on ne peut absolument pas faire abstraction et se déprendre, et on pourrait montrer qu'à chaque moment de notre vie, nous sommes, j'allais dire confronté, ça voudrait dire que nous l'explicitons en permanence, ce qui n'est pas le cas. Hein, mais
vous dites justement que la distance, la matière naît de la distance.
Exactement. En fait, nous sommes toujours obligés de faire avec cette question de la distance, qui tient au principe simple que deux réalités physiques ne peuvent pas occuper un même point dans l'étendue sans artifice. Donc, tous les acteurs ont affaire avec la distance dans ces situations. Et le cas de Rosa Parks peut être analysé comme tel, comme le cas du tsunami. Tous les acteurs ont affaire avec la question de leur relation aux places et aux emplacements, ceux qu'ils peuvent occuper et ceux qu'ils acceptent de voir occupés par d'autres réalités. Et donc, j'essaye de montrer que la société contemporaine est caractérisée par cette importance du jeu autour des places. Hein, ce que je dis, c'est une formule un peu à l'emporte-pièce, la lutte des places se substitue à la lutte des classes. Hein, qu'on a aujourd'hui un moment historique où la question du prendre place est tout à fait fondamentale. Et on pourrait évidemment documenter cela de façon beaucoup plus exhaustive que je ne le fais. Et puis, dans chacune de ces situations, on voit aussi que les acteurs sociaux sont préoccupé d'autre chose qui est de délimiter, de poser des limites, de placer des seuils, de savoir se placer par rapport à des limites matérielles ou immatérielles et savoir également user de ce que j'appelle des codes de procédure spatiale, c'est-à-dire de tout ce qui permet de franchir une limite en étant assuré que le franchissement ne posera pas problème. Donc, pour le dire vite, ce que j'essaye de montrer, c'est qu'à partir de ces intuitions, ces hypothèses plus exactement, on peut essayer de penser toute situation et de montrer qu'à partir de là, un certain nombre de problèmes naissent pour chaque individu, qu'ils les résolvent en fonction de leur stratégie du moment. Ce problème pour Rosa Parks, c'est de savoir pourquoi elle refuse de céder sa place et comment elle va ensuite assumer ce refus, mais le moment du tsunami a posé aussi toute une série de problèmes aux acteurs sociaux qui ont eu pour certains à élaborer leur stratégie de fuite pour certains ça a marché, pour d'autres hélas ça n'a pas marché, et puis ensuite à gérer toutes les questions liées à cette subversion totale de l'ordre spatial et de l'ordre social et politique que le tsunami avait provoqué. Donc voilà un peu très synthétiquement la grille de lecture situationnelle qui est la mienne et que j'essaye d'appliquer à toutes sortes de situations, de la plus petite à la plus mondiale.
Cette grille-là, vous allez aussi la chercher du côté d'Hannah Arendt. Parce qu'elle dit, l'homme est apolitique. Elle dit, la politique prend naissance dans l'espace qui est entre les hommes. Je voulais lire un extrait que vous citez d'Hannah Arendt. Elle dit ceci, quand il n'y a plus d'espace, justement. Elle dit, en écrasant les hommes les uns contre les autres, la terreur totale détruit l'espace entre eux. Elle substitue un lien de fer qui les maintient si étroitement ensemble que leur pluralité s'est comme évanouie en un homme unique aux dimensions gigantesques. Il y a là, dans cet avertissement d'Hannah Arendt, quelque chose qui est essentiel, qu'effectivement, ce livre en prend la mesure, c'est-à-dire de ce que ça veut dire que finalement la politique serait extérieure à l'homme et qu'elle serait justement dans la distance.
Oui, c'est une lecture qui m'a beaucoup marqué, que la lecture d'Hannah Arendt, c'est d'ailleurs pas particulièrement original, hein, je crois que beaucoup ont été marqués par la lecture d'Hannah Arendt, mais surtout ce qui m'a marqué, c'est une évidence qui pourtant avait été très peu relevée par les commentateurs, à savoir qu'elle construit une philosophie politique à partir de ce constat qu'il existe un espace qui sépare les hommes et que l'activité politique consiste justement à produire du discours et de la règle et de la norme autour de cette gestion, enfin le mot n'est pas le bon mot, mais de cet usage par les individus réunis en collectivité de l'espace qui les sépare. Et que le projet politique, si l'on peut dire, l'essence du politique n'est pas une essence qui serait, comme Aristote pouvait le penser, liée à une sorte de je n'ose dire de gêne, parce qu'en ce moment c'est malvenu, mais une sorte d'essence animale du politique, mais que l'essence du politique, si elle existe, est plutôt extérieure à l'individu, et est plutôt liée au fait que l'individu, l'homme, a besoin de penser et de régler sa relation distante avec les autres réalités humaines, dit Hannah Arendt, et moi je vais un peu plus loin, je dis avec l'ensemble des autres réalités humaines ou non humaines. C'est-à-dire que pour moi, la politique, c'est ce qui résulte du fait que chaque être humain a réglé ses relations de distance avec les autres êtres humains et avec l'ensemble des réalités non humaines. Et du coup, la géographie devient une science politique parce que c'est justement une manière de penser ce règlement de la distance entre les êtres humains et entre les êtres humains et l'ensemble des réalités non humaines. C'est pour ça, par exemple, que je prends l'exemple du virus du SRAS pour montrer qu'on peut penser géographiquement et donc politiquement cette question, puisque j'essaie de montrer, là, dans un passage très foucaldien d'ailleurs du livre, comment ce que j'appelle les géostratégies de crise peuvent être analysées à partir d'une situation qui est une situation où les individus et les sociétés se posent la question de savoir quelles relations ils vont entretenir avec un virus. Et si l'on part de cette idée simple, eh bien on pourrait très aisément, en tout cas assez simplement, tenter de montrer qu'une bonne partie de ce que nous appelons la crise du politique aujourd'hui, qui peut prendre des formes très diverses d'ailleurs selon les sociétés, mais ne parlons que des sociétés démocratiques. Laissons de côté les sociétés non démocratiques qui ont autre chose à faire, mais dont Hannah Arendt dit magnifiquement qu'une partie de leur problème, c'est justement la volonté dans les totalitarismes de supprimer l'idée même de distance possible entre les individus, hein, de créer cette sorte de masse compacte de la société totalitaire. Mais si l'on prend les sociétés démocratiques, on pourrait essayer de montrer qu'aujourd'hui nous vivons une crise sans précédent, un trouble sans précédent dans les systèmes de règlement de la distance entre les individus et entre les individus et les réalités non humaines. Et que cela a des impacts tout à fait essentiels sur deux aspects. Une crise du placement, hein, donc une lutte des places, et une crise des limitations, c'est-à-dire un renouveau de la puissance, des stratégies de séparation. Ce que je montre dans ma partie sur l'urbanité, en montrant qu'aujourd'hui, la logique séparative est au cœur de l'organisation de l'urbain. C'est-à-dire que la séparation n'est pas nouvelle dans les villes, hein, qu'on l'appelle ségrégation ou comme on veut. La séparation n'est pas nouvelle. Mais pendant longtemps, la séparation a été, de mon point de vue, une sorte de résidu du fonctionnement urbain. C'était quelque chose qui existait, on savait que ça existait, mais ça s'était plutôt confiné aux marges du système. Depuis maintenant quelques décennies, la séparation n'est pas un résidu du système, devient un des fondements du système. C'est-à-dire que le système urbain fonctionne en s'étalonnant en quelque sorte sur le principe séparatif. C'est-à-dire que l'ensemble de ce qu'on pourrait appeler en termes marxistes encore le système de production de l'urbain contemporain se fonde sur l'idée qu'il faut d'abord créer des barrières, d'abord créer des limites, d'abord créer des séparations. Et que c'est valable pour les catégories sociales, pour les activités, pour tout ce qu'on voudra. Hein. Et donc, voilà pourquoi, pour moi, il n'y a pas de pensée de l'espace sans pensée politique, et pourquoi ce livre essaye de montrer que nous avons un peu de souci à nous faire quant à l'avenir de nos sociétés politiques, si nous n'y prenons pas garde, parce qu'à travers cette sorte de subversion généralisée des principes classiques de règlement de nos relations distantes, de règlement de nos relations aux places et de règlement de nos relations aux limites, nous sommes en train d'inventer peu à peu une société où il n'y aura plus de régulation politique possible.
C'était un peu aussi l'impensé de la... Finalement, vous le dites aussi très bien, l'impensé de la politique de mixité sociale. Et d'ailleurs, Pierre Bourdieu insistait aussi déjà sur le fait que l'habitat exigeait un certain habitus et que, sous peine de s'y sentir déplacé, ceux qui pénétraient dans un espace doivent remplir les conditions qu'il exige. Et vous montrez très bien qu'avec cette politique de mixité sociale, eh bien, les individus ont mis en place des technologies de distance qui ont été, eh bien, la mobilité, celle d'aller ailleurs. Et on a vu des phénomènes de ghetto en fait, se produire pour échapper à cette... Parce que vous précisez bien que la suppression de l'écart n'est pas justement la disparition de la séparation et donc de la mise à distance.
Au contraire, on peut montrer que les questions de trouver le bon écart, la bonne distance, ont pris une importance considérable et que leur acuité n'a jamais été aussi forte. Et d'ailleurs, à proprement parler, je crois que ça nous confronte à des situations insensées au sens strict du terme. Je suis toujours surpris que personne, par exemple, que personne n'ait véritablement relevé, en tout cas dans ceux qui s'intéressent aux études urbaines, cette sorte de contradiction qui crée une tension de plus en plus insupportable. Entre, par exemple, le fait que nos sociétés contemporaines sont de plus en plus fondées sur l'idée que la mobilité, même l'hypermobilité, est non seulement un fait, mais plus qu'un fait, une valeur et presque un droit. Donc que les questions de mobilité sont de plus en plus travaillées comme des questions de droit. D'ailleurs, je cite dans le livre...
Oui, vous revendiquez, d'ailleurs, il y a des mouvements qui revendiquent le droit.
Voilà, il y a des associations qui ont été créées avec un appel international pour considérer que le droit à la mobilité devrait être rajouté à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je dis ça sans jugement. Ce qui m'intéresse là, c'est ce que ça montre de l'évolution du statut de la mobilité dans les sociétés mondialisées d'aujourd'hui, c'est-à-dire plutôt les sociétés urbanisées, c'est-à-dire de plus en plus quasiment l'intégralité des sociétés, à quelques exceptions mises à part. Donc ce droit à la mobilité, entre guillemets, admettons qu'il existe, hein, cette exigence de mobilité devient de plus en plus forte. Et elle s'assume, j'allais dire, toutes catégories sociales confondues et presque tous âges de la vie confondus. Il y a une sorte de montée en puissance de la revendication mobilitaire. Et on invente évidemment les techniques et les technologies qui vont avec. On solvabilise cela, on organise les espaces pour ça. Regardons l'importance prise par les grands espaces de mobilité. Et parallèlement, non pas parallèlement, j'allais dire dialogiquement, ou dialectiquement, enfin, en relation avec ça, nous vivons dans une époque où les individus réclament et de plus en plus des séparations claires entre eux et les autres, entre leurs espaces de vie et les autres espaces, et acceptent de plus en plus volontiers, en apparence, de se soumettre justement à ce que j'appelle des codes de procédure spatiale de plus en plus lourds, mis en place par les collectifs, mis en place par les institutions régulatrices, pour permettre de franchir les limites de plus en plus nombreuses qui strient l'espace de mobilité. C'est-à-dire, nous sommes à la fois de plus en plus mobiles et de plus en plus confrontés à l'exigence de maîtriser des codes de procédure spatiale, de plus en plus sophistiqués, et ceci en naturalisant de manière absolument spectaculaire cet état de fait. Vous prenez un certain nombre de personnes aujourd'hui, beaucoup de gens considèrent comme normal, par exemple, de passer sous un sas ou dans un portique de sécurité pour rentrer dans un musée. À l'heure actuelle, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, la chose nous frappait. Enfin, aujourd'hui, alors après, on peut expliquer pourquoi on considère ça normal. Je ne pense pas qu'il y ait un grand complot d'un acteur métamondial. Non, je pense que c'est plus un processus d'autoconstruction. Hein. Je suis plus proche de Cornelius Cassiorides pour cela, lorsqu'il parlait d'autoconstruction de la société hein, par elle-même, sans qu'il y ait vraiment d'intentionnalité très claire. Moi, j'essaye de voir ce que ça provoque. Et nous sommes tous confrontés à la multiplication des limites immatérielles qui sont celles des systèmes de surveillance, au système qui assure la traçabilité de notre présence dans tel ou tel endroit, au fait que de moins en moins d'espaces, même publics, deviennent de moins en moins d'espaces publics sont réellement accessibles sans code de procédure spatiale. Donc cette sorte de tension qui, moi, me pose problème entre l'exigence de mobilité qui présupposerait plutôt la fluidité, l'accessibilité, la capacité d'accéder là où on le souhaite, et ce désir presque compulsif de limitation qui procède de ce dérèglement de la relation distante entre les individus, hein, qui traduit ce malaise profond de la relation interindividuelle. La perte de la filia, comme dirait Descartes, c'est-à-dire le fait que nous avons perdu confiance dans cette relation-là, avec ce qu'elle peut avoir de problématique et de difficile. Quand on est pessimiste, certains soirs, on se dit « nous n'en voulons plus ». Moi, je suis frappé de voir que cette sorte de tension entre ces deux réalités contradictoires, le monde d'Ulysse et le monde du strié, hein, pour reprendre Deleuze et Guattari, est en train de produire, d'organiser des espaces et des sociétés politiques dont je me demande si un jour ou l'autre elles vont finir par être encore vivables, et vivables parce que régulables collectivement.
On va revenir sur ces questions de l'urbain, parce que ça me semble, ce que vous dites, aussi très proche de ce que vous appelez les dispositifs spatiaux, qui sont extrêmement prescriptifs et normatifs. Mais je voudrais qu'on fasse qu'on parle du langage et de la question de l'image, puisque vous allez traquer l'espace jusque dans l'image. Vous dites que, par exemple, l'image ne représente que ce qu'elle invente, que ce qu'elle fait advenir, et qu'elle fait exister le monde spatial dans un ordre qui lui est propre, qu'elle réordonne les choses. Et vous parlez de l'ubage urbanistique, par exemple, qui serait de l'espace en propre, une représentation, support de pratique. Vous dites ceci à propos de la ville de Paris, la candidature de la ville de Paris aux Jeux Olympiques. Vous dites « l'imagerie urbanistique parvient, par la puissance de son effet de vérité, à faire oublier qu'elle montre, figé dans le temps suspendu du projet, un référent absent, c'est-à-dire l'organisation spatiale encore à produire. » Voilà, je voulais que vous reveniez sur cette dynamique On pourrait aussi parler du paysage, de la manière dont vous découpez le paysage en représentation littéraire, picturale, de donner à lire la fabrique du paysage. Vous expliquez ce chemin d'aller-retour du discours, le sens entre le monde du sens et l'espace. Vous expliquez comment le récit est également une forme de, à la fois, le récit a cette capacité de créer l'espace en propre avec l'image, mais il a à la fois une forme de l'action spatiale. C'est la dimension un peu performative de la langue. Vous parlez pour la ville de Liverpool, quand vous analysez le renouveau de la ville de Liverpool, vous parlez de récit légendaire, avec sa dimension mythologique, identitaire, mémorielle. Voilà, un peu comme je voudrais peut-être terminer, citer une analyse d'Alexandre Ross à propos de Espèce d'espace de Georges Perec, où il disait « Tout espace négocie sans relâche ses limites, cherche à endiguer ce qui l'excède, se sait contraint à faire miroiter à la diversité des rumeurs la fable de son unité ou l'évidence de ses contours. » On voit bien là la question du langage et la question de la limitation de cet espace. Comme si le langage, un peu comme ce que disait Deleuze, que en fait, à partir du moment où il y a expression, il y a territoire. Et vous analysez le fait que, par exemple, le territoire est extrêmement qui est lié à l'air et qui connaît justement des délimitations très précises.
Oui, pour moi, l'espace, ça n'est pas que de la matière organisée. Ce à quoi on le réduit trop souvent. Et je crois qu'on l'aura bien compris en écoutant les développements précédents de notre conversation sur les questions de relation à la distance. On voit bien qu'il ne s'agit pas simplement d'une question d'organisation de la matière. Bien sûr que c'est aussi cela. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que la matière, c'est peu de choses. Hein, l'organisation de la matière dans les vies de chacun, c'est quelque chose d'important. D'autant que peut-être un des regrets que j'ai, c'est de ne pas avoir suffisamment abordé ça, mais c'est quelque chose auquel je réfléchis, mais qui me pose problème théorique, c'est que dans cette matérialité organisée, qu'est aussi l'espace, il faudrait donner une place tout à fait particulière, un rôle tout à fait particulier à ces choses curieuses, physiques, que sont les corps des autres êtres humains. C'est-à-dire que la relation humaine, c'est aussi une relation de corps à corps. Et que on peut même faire l'hypothèse, sans trop se tromper, en prenant un certain nombre d'acquis de la psychologie ou de l'anthropologie culturelle, ou tout simplement en allant regarder ce qui se passe du côté de la chorégraphie, hein, contemporaine notamment, mais pas seulement, eh bien on pourrait montrer que l'organisation de la vie quotidienne, à l'échelle justement du quotidien qui est celle qui nous importe le plus, est aussi une organisation du corps à corps, hein, de savoir comment on se place par rapport aux autres corps. Et ça, c'est un point que la géographie a souvent laissé de côté. Sans doute parce que ça n'est pas simple d'intégrer ça dans une pensée de sciences sociales qui a toujours la volonté de produire un peu de la normativité quand même. Mais de ce point de vue-là, il y a quelques livres qui sont marquants. J'ai souvent l'occasion de citer ce livre de Georges Didier Huberman, hein, qui s'appelle Le danseur de solitude, hein, sur le flamenco et la tauromachie, dans lequel, je crois, on a rarement aussi bien mis en avant cette question du corps à corps, hein, du rapport de l'espace au corps, au sien propre et au corps des autres. Et donc l'espace, c'est bien sûr de la matière organisée, mais ça n'est pas que cela. C'est-à-dire, j'ai l'habitude souvent de dire l'espace est plus grand que la matière. C'est-à-dire, l'espace, c'est aussi du langage, et c'est à la fois du langage oral. Bon, et ça, il y a quand même une grande tradition d'analyse du rapport entre l'espace et le langage oral. C'est aussi du langage écrit et c'est aussi de l'image. Si on prend ces trois formes de langage, entre guillemets, qu'est l'oralité, l'écrit et l'image. Et donc, je dis à un moment, il n'y a pas d'espace sans langage et il n'y a pas d'espace sans image. Parce que pour tout individu, la relation qu'il entretient avec les questions de distance, d'emplacement et de limitation, Donc là, l'exercice de ces compétences spatiales élémentaires le confrontera à la nécessité de se confronter à se coltiner la matière, mais lui fera émettre du récit, du discours, produira des actes de langage et l'amènera à être en relation avec des images, voire à produire des images. Produire des images, ça peut être simplement faire un petit croquis sur un carnet quand on veut dire à quelqu'un « voilà où j'habite ». Mais ça peut être, quand on est urbaniste, vous citiez le cas, ça peut être faire un plan directeur. Quand on est architecte, faire une axonométrie d'architecture. Quand on est vidéaste, et Dieu sait que l'art contemporain a à voir avec la question spatiale, hein, c'est produire un dispositif dans lequel l'espace est mis en jeu à travers la vidéo. Quand on est peintre, c'est travailler sur cet espace pictural particulier. Donc, l'idée que l'espace, pour chaque individu, c'est de la matière, de la pensée et du langage, c'est un peu ma marque de fabrique, entre guillemets, dans ma conception de l'espace. C'est-à-dire, c'est ma volonté de faire en sorte qu'on comprenne bien que l'espace est quelque chose de très englobant pour chacun. C'est pour ça qu'on est toujours, on n'est jamais sur un espace. Je n'aime pas cette expression être sur l'espace ou agir sur l'espace, mais toujours avec et dans l'espace. On est toujours en train d'inventer en permanence, avec les ressources spatiales que nous avons à disposition, cet espace de vie au quotidien qui sera toujours déjà de la matière, de la pensée et du langage. Et on ne peut pas séparer les trois. C'est ça qui est excitant et en même temps, c'est ça qui est difficile.
On voit justement comment, quand vous suivez le discours de l'homme politique sur l'espace, comment ça fabrique l'espace.
Oui, alors les exemples que je prends sont des exemples évidents. Hein, c'est-à-dire là, je suis allé chercher les exemples les plus simples à maîtriser parce qu'il est vrai qu'un homme politique, là, c'est tellement, tellement flagrant qu'on se demande pourquoi on n'y avait pas pensé plus tôt. Moi, j'ai commencé mon travail de géographe en faisant une thèse sur l'idéologie spatiale de Jean Royer, le maire de Tours. Parce que j'avais été absolument ébahi par son rapport très particulier à l'espace, son espace légitime d'intervention, c'est-à-dire l'espace communal de Tours. Donc on voit comment les hommes politiques, en particulier les élus locaux, modèlent leur territoire d'intervention et que ce territoire, c'est d'abord du langage. Et c'est aussi de l'image. Et ce, parce que, comme je le dis, le territoire, c'est plutôt un espace de type limité. Toute idéologie territoriale présuppose une réflexion sur la limite. Le territoire, c'est l'exemple type, c'est l'archétype de territoire limité, d'espace limité, et que tout territoire est nécessairement aussi marqué par une idéologie territoriale, c'est-à-dire justement une idéologie de l'intégrité, de la limite, de l'identité. Et je pense que si on aborde les espaces comme ça, ça permet aussi de comprendre en quoi les idéologies territoriales peuvent mener au conflit, à la guerre, au désastre, si l'on ne prend pas garde justement aux effets de clôture, qui sont d'abord des effets de clôture langagière et des effets de clôture imaginaires et iconographiques. Je suis très frappé toujours de ça, c'est-à-dire que la violence dans une société commence toujours par le langage et pratiquement toujours, cette violence commence par être une violence qui s'applique au problème de limite, de place et de distance.
Vous comparez plusieurs cartes représentant des spatialités différentes à différentes époques. Et votre étude aboutit à la conclusion d'un urbain qui serait infigurable, soit une impuissance de la carte à rendre compréhensible l'espace. Et vous poursuivez sur cette conclusion lourde de conséquences, et j'aimerais qu'on en parle, pour qui veut bien l'entendre. Je vous lis. Il n'existe que le regard qu'un sujet humain, hors de son monde habituel, porte sur d'autres sujets humains. Il n'existe qu'une saisie psycho-affective et sensible d'individus emportés dans une spatialité urbaine sans référence, sans cadre clair, sans vue d'ensemble qui les absorbe. Les images de la guerre, du terrorisme et de la catastrophe nous confrontent non seulement à la perte des repères traditionnels, mais aussi à la destruction, en tant que celle-ci s'avère un monde possible d'existence banale de l'urbain contemporain. L'urbanisation de masse liée à la mondialisation contribuerait ainsi à installer l'état de guerre, de catastrophe, d'accident en régime normal de fonctionnement. La crise paroxystique deviendrait ordinaire et ces images seraient alors celles qui pourraient étalonner l'ordre figuratif de l'urbanité d'aujourd'hui. Et est-ce qu'il n'y a pas, enfin en tout cas, de cette montée en puissance de la limite, il n'y a pas un lien à l'impossibilité du panorama, comme vous dites. C'est-à-dire de ne plus avoir de repères, être dans un urbain qui n'offre plus de repères, et comme un gouffre, un vertige, une chute, qui fait qu'il y a besoin de retrouver une verticalité qui est enracinée une identité dans l'espace, et un retour à, ça, c'est-à-dire une identité attachée à l'espace.
Oui, je pense que la crise des limites que nous vivons est une crise là aussi un peu paradoxale. Si l'on regarde l'évolution urbaine depuis un demi-siècle, admettons, ça a sans doute commencé un peu plus tôt, mais nous n'avons pas le temps de raffiner. Depuis un demi-siècle, s'est mis en place une organisation urbaine, d'abord à l'échelle des sociétés occidentales, les plus développées, puis petit à petit à l'échelle du monde, puisque maintenant il y a très peu de pays au monde où cette urbanisation n'est pas commencée à faire sentir ses effets. On peut trouver des cas, hein, la Birmanie, quelques zones indiennes et encore, mais globalement, on sait bien qu'il y a un mouvement continu d'urbanisation et que même les continents qui étaient jusque-là relativement à l'écart de ce mouvement d'urbanisation. Et alors, disant ça, je n'ai pas de jugement péjoratif, moi je suis plutôt urbanophile, hein, de sensibilité. Mais donc même les continents comme l'Afrique, par exemple, atteignent dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, les 50% de population urbaine, vraisemblablement vers 2015, peut-être un peu avant, et qu'on arrivera à 75 à 80% de population urbaine dans le monde assez tôt, vers 2030-2040, c'est-à-dire demain. Ce qui, songeons-y bien, représente quand même pratiquement à l'époque une dizaine de milliards d'individus, ce qui n'est quand même pas rien. Donc l'urbanisation mondiale a provoqué quelque chose dont on n'a pas véritablement pris la mesure immédiatement, qui est une fin de la limite extérieure, de la limitation extérieure.
Et le défaut d'extériorité.
Voilà. C'est-à-dire que la cité, puis la ville, se caractérisaient essentiellement en ce que c'était des organisations géographiques, des entités géographiques limitées et limitables. Et se posait donc très clairement à chaque fois la question de savoir si on était dehors ou dedans. Pour la cité, c'est évident, on a tous en... C'est pour ça que je donne cette image dans le livre, on a tous en tête ces iconographies très classiques, mais c'était aussi valable pour la ville. Dehors ou dedans. Avec l'urbain, ce qui devient tout à fait stupéfiant, parce que c'est valable maintenant à une échelle qui est l'échelle pratiquement du monde, cette question n'a plus de sens parce qu'il est très difficile de savoir à quel moment on est dehors ou à quel moment on est dedans, dans la mesure où les limites n'existent plus. Ou plus exactement, les limites qui s'imposent ne sont pas des limites qui séparent l'urbain de ce qui ne serait pas l'urbain, mais deviennent, comme je l'ai dit tout à l'heure, les limites qui ponctuent, qui scandent de plus en plus cet espace massivement urbanisé. C'est-à-dire que la limite devient une figure intérieure de l'organisation urbaine, alors qu'auparavant, la limite était la figure de délimitation, enfin de définition de l'extériorité. Et en ce sens, on peut essayer de montrer, et ça, j'ai pris, cette intuition m'est venue d'une lecture de François Choët, hein, donc grand historienne de l'architecture et de l'urbanisme, qui en 1994, dans un texte qu'elle a donné pour le catalogue d'une grande exposition, qui avait lieu au Centre Pompidou, qui s'appelait « Art et architecture en Europe », 1850, 1964. Elle avait écrit un très beau texte qui s'appelle « La fin de la ville et le règne de l'urbain », où elle pressentait cette évolution-là en historienne de l'architecture et de l'urbanisme. Elle disait, voilà, l'urbanisme classique, celui qui est né dans les villes de la Renaissance, avec l'architecture, alors elle prenait Alberti, etc. Cet urbanisme classique était un urbanisme de la limite. De la séparation claire entre l'urbanité et ce qui n'était pas elle. Et elle disait aujourd'hui, cette culture des limites est en train de disparaître. Et ce qui apparaît, c'est donc l'urbain sans feu ni lieu, si l'on peut dire. Et moi, j'ai poursuivi ça en disant que du coup, ce qui était tout à fait frappant, c'est que nous étions dans une époque où il n'existait plus, comparativement aux époques précédentes, de figure de totalisation de cet urbain sans feu ni lieu. Parce qu'à la limite, si j'ose dire, la seule figure de totalisation de l'urbain aujourd'hui, c'est la photographie de la Terre. L'urbain devient une réalité sociale sans extériorité. Et je fais donc deux hypothèses à partir de ça. Un, quand l'extériorité fait défaut, on invente de nouvelles manières de produire de l'extériorité. Et ça donne donc tout son sens à mon travail sur les séparations internes à la ville. C'est-à-dire quand l'ailleurs n'existe plus, quand le dehors n'existe plus, on crée du dehors en dedans, si je peux dire. Et ce dehors-là, on veut s'en séparer avec plus de force encore que si c'était un dehors bien délimité, bien extérieur. Alors c'est une hypothèse, mais c'est, quand on y réfléchit bien, peut-être une manière de comprendre ce qui se passe dans les sociétés contemporaines, y compris ce qui s'est passé hier en Suisse, à Berne, entre l'UDC de Christophe Blocher et des contre-manifestants. Hein, cette volonté de repousser tout ce qui n'est pas soi, y compris dans ce qui n'est pas soi lorsque ça vit à côté de vous. Hein, moi, je suis très frappé de ces sortes de remparages permanents des individus dans leur petite citadelle domestique ou leur petite citadelle de voisinage. Et puis parallèlement, le défaut de visualisation, le défaut de figure organisatrice fait que cet urbain sans feu ni lieu nous plonge dans un état d'ambiguïté et d'inquiétude permanent. C'est-à-dire, dans quoi vivons-nous? Qu'est-ce que ce monde dans lequel nous vivons? Comment pourrions-nous le savoir puisque nous ne pouvons même pas y répondre en croyant à des figures de totalisation, en ayant confiance dans des images. Il n'y a plus d'économie de la confiance dans les images. Et moi, je crains, alors là, c'est plus une extrapolation, que ce défaut de limite et de figure totalisatrice nous fasse plutôt choisir les seules images qui nous restent. Et moi, je suis frappé de voir que la culture visuelle légitime de l'urbain aujourd'hui, c'est plutôt la culture visuelle de la guerre, de la catastrophe, du chaos, de la destruction, de la violence, de l'urbicide.
C'est en fait référence notamment à l'exposition de Paul Virilio qui avait réalisé pour la Fondation Cartier « Ce qui arrive ».
Ce qui arrive.
Donc Bernard Stiegler, lui, s'est intéressé à la question du désir. Et en fait, effectivement, le fait qu'on soit maintenant de plus en plus relié à quelque chose par l'étreint, tout ce réseau-là, j'ai l'impression que là où on pense qu'on abolit une distance, il n'y a que plus de distance. Par exemple, Tours, c'est une ville de province. Quand je vais aller à Paris pour voir une exposition, donc je prends le train, je paye le train, puis j'arrive dans la gare, puis je prends le métro, et puis enfin j'arrive au musée. Et en fait j'ai l'impression que là où je voulais être, tout d'un coup je n'y suis plus, parce qu'il y a toute cette distance qui se retrouve, tous les métros qui ont été pris, tous ces trains, tout ça en fait qui m'empêcherait... Oui, je veux dire ça, de me recueillir face à quelque chose. C'est-à-dire que je suis quelque part et en même temps, j'en ai jamais été aussi éloignée.
Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites. qui me paraissent très, très justes, et ce que Stigler dit là-dessus est juste aussi. Et moi, c'est ce qui me sépare, par exemple, de l'analyse, de certaines conclusions de l'analyse de Paul Virilio, qui lui a construit son système de pensée aussi sur l'idée que la vitesse et le développement de la vitesse annihilait la distance. C'est-à-dire l'espace est critique chez Virilio parce qu'il disparaît sous les coups de butoir de la vitesse, hein, pour le dire vite. Et moi, je pense plutôt, et j'essaye de le montrer, que plus la vitesse augmente, plus les technologies de télécommunication nous donnent l'illusion de croire que la distance n'existe plus, plus en fait les questions de distance deviennent fondamentales et plus on peut se retrouver dans une situation de quasi-aliénation de l'individu par les effets de cette nouvelle force de la distance. C'est un peu ce que vous décrivez lorsque vous décrivez votre expérience. C'est-à-dire que là où on devrait se trouver bien aise d'être en accès rapide avec quelque chose qui jadis était très loin et auquel on ne pouvait pas accéder, eh bien finalement, on se retrouve dans une situation de malaise parce qu'on est presque dépossédé aussi de l'usage de ce lieu et dans une relation très problématique avec la distance, où la distance apparaît à la fois comme très faible et démesurée, comme très simple à combler et totalement aliénante. Et ça, on trouve énormément d'exemples de ce type qui montrent que plus les sociétés développent leur technologie de gestion rapide de la distance, plus en fait, ces questions de distance deviennent prégnantes. Alors, je dis l'aliénation, pourquoi ?
Une sorte d'addiction.
Oui, parce que, en fait, et c'est un peu le projet que j'ai maintenant pour écrire la suite de ce livre qui devrait être consacré justement à ce que j'appelle aujourd'hui une politique de l'espace. J'ai l'impression que nous souffrons à l'heure actuelle de plusieurs maux. D'une part de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire cette sorte de dépossession, hein, de l'espace et de la distance, et puis en même temps de quelque chose, bon là c'est très, très, très intuitif ce que je dis encore, hein, il faudrait que ça soit nourri par une analyse plus serrée. Je trouve aussi que les sociétés contemporaines ont ceci de particulier, que nous technologisons et nous instrumentalisons de plus en plus notre relation distante aux autres réalités. C'est-à-dire, en gros, cet espace qui est entre les hommes, qui, comme Arendt le montrait, a d'abord été l'espace du dialogue, de la discussion, de la filia, de la réflexion collective sur l'être ensemble. Qu'est-ce qui permet, malgré nos différences, de construire une cité, de produire une société politique, en gros, quel que soit le sens qu'on donne à société politique. Cet espace-là, qui est entre les hommes et qui est entre chaque individu et les autres réalités sociales, devient de plus en plus un espace technologisé, instrumentalisé, utilitaire. Si je puis employer ce néologisme un peu disgracieux. Et moi, je suis frappé de voir ça. C'est plus une intuition qu'un concept ou qu'une idée. Mais de voir à quel point nos relations spatiales s'éloignent chaque jour un peu plus d'un usage qui serait simplement un usage naïf et natif, en quelque sorte. Simplement celui d'une interlocution langagière, non médiatisée par des techniques, non soutenue par des technologies, non finalisée par des utilités.
On rejoint très bien ce que soulève Bernard Stigler. Hein. En fait, finalement, c'est ce que vous dites, c'est l'idée de comment on s'individue avec l'espace. Et à partir du moment où effectivement on a des espaces qui sont... En plus, vous dites très bien qu'il y a une... avec les nouvelles technologies, en fait, il y a de la création d'espace. Et on a le sentiment qu'il y a de plus en plus d'espace qui se crée avec les nouvelles technologies, ne serait-ce qu'Internet, mais même un téléphone portable, est ce que vous appelez un commutateur d'espace. Et on sent qu'il y a donc beaucoup d'espace de plus en plus créés. Et est-ce que ces espaces, qui sont plus par ailleurs extrêmement normatifs et prescriptifs, qui donc norment les pratiques à l'intérieur, est-ce qu'ils ne vont pas faire, comme ce que disait Bernard Sigler, est-ce qu'ils n'aboutissent pas à un assèchement du désir d'espace? Un peu comme Bernard Sigler explique qu'à force de prendre dans la libido comme ça, comme le font le marketing et cette consommation, elle finit par assécher cette libido en quelque sorte. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir ce système-là, voir se développer cette perte de désir d'espace pour s'individuer avec lui, en tout cas?
Alors, oui, bien sûr. Et c'est là où on pourrait peut-être faire un petit clin d'œil à la société du spectacle, hein, à Debord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'espace, au sens où je l'entends, c'est peut-être le principal matériau de la société du spectacle. Et au sens où l'entendait Debord, hein, c'est pas simplement du spectacle médiatique, hein, c'est peut-être le principal matériau de la société conçue comme essentiellement spectaculaire, devant faire spectacle. Et de ce point de vue-là, moi je suis très frappé d'un certain nombre de choses. Il y a des symptômes. Comme par exemple l'opération Nuit Blanche à Paris, qui est très estimable par ailleurs. Mais je suis frappé de voir comment dans cette opération-là, qui vous l'avez vu d'ailleurs, a eu pour la première fois un prolongement sur Second Life, hein, sur la plateforme de virtuelle, hein, où chacun fait vivre son avatar. Il y a donc eu création d'un Second Night, où la Nuit Blanche de Paris a eu son avatar. Chose sur laquelle je suis en train d'écrire un texte, parce que je trouve que c'est très étrange quand même, et en même temps très stimulant, hein, intellectuellement. Mais regardons comment se déploie cette nuit blanche. En fait, au sein de cette nuit blanche, l'espace urbain, c'est le matériau du spectacle. Et dans cet espace, il y a nous, hein, puisque nous ne sommes pas extérieurs à l'espace, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous ne sommes pas sûrs, nous sommes dans et avec. Donc cette spectacularisation du social et même de la société tout entière, peut-être qu'elle trouve dans l'espace au sens où je l'entends, son matériau d'élection. Là aussi, à titre expérimental, ce qui, alors pour le coup, rendrait le pronostic encore plus sombre, si je puis dire, s'il ne l'était déjà pas assez. Et du coup, si l'on revient à la guerre, à l'accident, à ce qui arrive, finalement, cet accident qui arrive et qui fait que c'est peut-être la seule chose qui nous permet à certains moments de faire ensemble. On existe que parce qu'il existe des accidents. Et à la limite, la fête urbaine peut être en soi pensée sous la forme de l'accident, hein, du spectaculaire accidentel. Du coup, si nous acceptons cette hypothèse que l'espace, c'est le matériau de la spectacularisation de la société, on voit bien en quoi la relation à la figure de la guerre et de l'accident est évidente. À savoir que la guerre, c'est aussi la destruction, le chaos, c'est aussi la matière première du spectacle. Une autre matière première du spectacle. Et je n'ai pas tout à fait repris votre remarque très juste sur le désir. Oui, je crois qu'il y a une sorte de désappropriation, en tout cas j'ai parlé d'aliénation tout à l'heure, hein. C'est finalement un mot qui a
une
son
sorte
sens.
De délégation de...
Oui, c'est ça, c'est-à-dire et de perte à la fois de nécessité et de sens. C'est-à-dire, moi, je suis de plus en plus frappé, je ne sais pas si c'est l'effet de l'âge, hein, ou l'expérience, mais quand vous savez, on fait aussi beaucoup de sciences sociales ou de sciences humaines, un peu comme quand on fait de la littérature, à partir de sa propre expérience d'être humain, hein. Et donc on est nourri ou détruit par un certain nombre d'expériences qu'on fait. Et moi, je suis frappé de voir, n'étant ni sociophobe ni sociopathe, plutôt habitué à essayer d'aller au plus d'expériences que je peux trouver intéressantes, souvent je suis amené à me dire, après avoir vécu ces expériences, bon bah so what, hein, comme dirait, ouais, d'accord, mais ouais, mais et alors? C'est-à-dire cette sorte de sentiment un peu bizarre de la, même pas de la gratuité, parce que ça serait en soi une valeur, hein. La gratuité, c'est une belle notion, hein. Si on pense au don gratuit, à l'engagement de soi, etc. Mais plutôt ce que j'appellerais la vacuité. Et une vacuité qui coexiste avec un trop-plein. Trop-plein d'énergie, trop-plein de choses, trop-plein de lumière, trop de mots, trop de paroles, etc. Et c'est là où ce que dit Sigler, moi, me paraît très, très profond et très juste. Et lui, il le dit avec ses mots, moi, je ne on ne peut pas le dire comme ça, mais l'idée en permanence que, comme disent les jeunes d'aujourd'hui, c'est trop. Et qu'en même temps, ce trop plein nous prend et nous aliène. C'est-à-dire que nous sommes pris dans les raies, en quelque sorte, de ce filet du spectaculaire. Et que une des exigences d'une nouvelle politique de l'espace, ça serait peut-être de désapprendre ces choses. Ça serait peut-être d'accepter le vide, d'accepter de revenir à des pensées plus simples et plus élémentaires, j'allais dire plus dépouillées, plus économes de la relation distante de soi aux autres et de soi aux autres choses. Et là, j'en appelle pas forcément à un dépouillement matériel, quoique, à un moment ou à un autre, comme je disais tout à l'heure, la question de la société matérielle est toujours posée, hein, mais aussi, j'allais dire, quelque chose qui nous permette de revenir aux sources mêmes de ce qui fait la relation humaine, c'est-à-dire la relation de soi à ce mystère de l'autre séparé de nous, tout en étant proche.
La question de l'altérité.
Hein, et donc, on retrouve les questions d'identité et d'altérité.
Michel Husso, merci. En fait, nous arrivons à terme de cette émission. Nous étions donc en compagnie de Michel Husso, géographe, professeur en géographie à l'Université François Rabelais à Tours. On s'entretenait à propos de son dernier livre, L'homme spatial, la construction sociale de l'espace humain, aux éditions du Seuil.